Laudetur Jesus Christus.
À la une de ce journal, les tensions qui repartent de plus belle entre Gaza et Israël après l'assassinat ciblé d'un commandant du groupe djihad islamique cette nuit. Des roquettes tirées depuis le territoire palestinien pleuvent depuis ce matin sur le sud d'Israël. Nous retrouverons notre correspondante à Jérusalem dans quelques secondes. Nous reviendrons aussi sur la mort hier d'un prêtre arménien catholique dans le nord-est de la Syrie, le père Joseph Anna Ibrahim, assassiné avec son père par des djihadistes de l'État islamique. L'autre actualité majeure, c'est le départ d'Evo Morales, le président bolivien démissionnaire a quitté son pays pour le Mexique. Sur place, c'est toujours le chaos qui prévaut. La capitale bolivienne a été livrée à des groupes de casseurs. Et puis gros plan dans notre dossier sur l'Espagne, après des élections qui, au lieu de simplifier les choses, compliquent l'échiquier politique et compromettent la formation d'un gouvernement. Analyse à suivre à la fin de ce journal.
Le journal Manuela Affigi.
Bonjour à tous. La fièvre s'empare de nouveau de Gaza où de nombreuses roquettes sont tirées en ce moment même vers le territoire israélien et même vers Tel Aviv dont les sirènes d'alarme ont été activées tôt ce matin. Un pic de tension suite à l'assassinat ciblé par Israël d'un haut commandant du djihad islamique la nuit dernière à Gaza. On retrouve tout de suite à Jérusalem Valérie Ferron.
L'assassinat de ce haut responsable du djihad islamique et de son épouse par l'armée israélienne a déclenché une très forte remontée de la violence. Depuis l'aube, des salves de tirs de roquettes s'abattent en territoire israélien, ciblant non seulement les localités proches de la bande de Gaza, mais également celles de la région de Tel Aviv, où toutes les écoles vont rester fermées aujourd'hui, de même que dans les localités du désert du Negev. À Jérusalem, la municipalité israélienne a fait ouvrir les abris publics dans les quartiers israéliens. La situation est d'autant plus grave qu'elle dépasse le cadre habituel des confrontations, une attaque imputée également à l'armée israélienne ayant visé la maison d'un membre du djihad islamique dans la capitale de la Syrie, Damas. L'attaque a tué deux personnes, dont le fils de ce responsable du djihad islamique, et en a blessé six autres. En Israël, la Liste arabe unique a lié ces attaques à la situation politique. Un député juif du Parti communiste a estimé que par ces attaques, Benjamin Netanyahou cherche à sauver sa peau à l'heure où il est pris dans plusieurs affaires de corruption et que les tractations pour la formation du futur gouvernement sont dans l'impasse. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
En Iran, l'Agence internationale de l'énergie atomique affirme avoir détecté des traces d'uranium sur un site non déclaré. Elle précise que ces particules trouvées sont dues à une activité humaine. Réunis à Paris, les ministres français, allemands et britanniques des Affaires étrangères ainsi que la haute représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, se sont dit extrêmement préoccupés par cette situation. Dans un communiqué commun, ils exhortent l'Iran à revenir sur toutes les mesures contraires au traité signé en 2015. L'autre actualité majeure de ce mardi, c'est l'assassinat hier d'un prêtre arménien catholique dans le nord-est de la Syrie. Le père Joseph Anna Ibrahim voyageait en voiture avec son père quand son véhicule a été pris pour cible par des hommes armés. L'État islamique a revendiqué ce double meurtre. Olivier Bonnel.
Le père Joseph Anna Ibrahim se trouvait dans son véhicule en compagnie de son père sur la route qui relie la ville de Kamchili à Deir ez-Zor dans l'est du pays quand leur véhicule a été pris pour cible par des hommes en armes. Selon les informations recueillies localement, les deux se rendaient en visite dans une église arménienne. Ce double assassinat a été revendiqué rapidement par le groupe État islamique qui a diffusé le document d'identité du père Ibrahim. Selon un journaliste indépendant qui connaît bien la région, ce meurtre pourrait être lié à un besoin de légitimité du nouveau chef de l'État islamique, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Dans un communiqué, l'œuvre d'Orient souligne que le père Ibrahim était particulièrement actif sur les projets de reconstruction et d'accueil des populations réfugiées dans l'est de la Syrie. L'œuvre d'Orient qui rappelle que les autorités kurdes comme les autorités syriennes doivent assurer la sécurité des communautés chrétiennes vivant dans la région, soulignant aussi que la communauté internationale a l'obligation morale d'assurer la sécurité de ces communautés chrétiennes et leur maintien dans leurs terres ancestrales. Face à la menace terroriste toujours présente dans la région, l'œuvre d'Orient insiste aussi sur l'urgence de mettre en place une justice internationale qui juge les criminels, comme cela a été fait dans d'autres situations.
Olivier Bonnel, et puis hier soir, une veillée s'est tenue en la cathédrale catholique arménienne Saint-Joseph de Kamlichi, la paroisse du Père Ibrahim. Ses funérailles auront lieu aujourd'hui à midi. Des évêques, prêtres et fidèles de différentes églises catholiques orientales sont attendus. En Irak voisin, la contestation populaire ne faiblit dit pas malgré une répression qui se durcit. Dans ce contexte de violence et de confusion, le cardinal Sacco, le patriarche de Babylone des Chaldéens, appelle les fidèles de son église à jeûner pendant 3 jours pour le retour de la paix et de la stabilité dans le pays. Il prie également les autorités d'agir avec sagesse et modération et de mettre l'intérêt général au-dessus de toute autre considération. L'autre titre à la une de l'actualité internationale, c'est la crise qui s'installe en Bolivie après le coup d'État. Le président Evo Morales a finalement décidé d'accepter l'asile politique proposé par le gouvernement mexicain. Il a donc quitté la Bolivie cette nuit. Carlos Mesa, son opposant, a appelé à arrêter les attaques à l'encontre des membres du parti de Morales. Et l'Organisation des États américains a réclamé une réunion du Parlement afin de préparer l'après Evo Morales. La correspondance régionale de Caroline Vic.
L'escalade de violence ne cesse pas en Bolivie avec des attaques, des intimidations et des menaces contre Evo Morales, sa famille et les membres de son gouvernement. Les domiciles du président démissionnaire et de sa sœur ont été saccagés et des menaces de mort ont été envoyées à des ministres de Morales et à leurs enfants. Dans un communiqué, l'Organisation des États d'Amérique n'a pas mentionné de coup d'État, mais une crise politique et institutionnelle. Elle a sollicité une réunion à l'Assemblée afin d'accepter la démission du président et de nommer de nouvelles autorités électorales pour organiser de nouvelles élections et de voter pour un mandataire de transition. Sur le continent, les réactions sont divisées. Les gouvernements de droite évitent de mentionner les forces militaires et pèsent leurs mots, certains parlant déjà de transition. En revanche, les politiciens de gauche au Mexique, en Argentine ou encore en Uruguay dénoncent clairement un coup d'État. Quant à Donald Trump, il a directement applaudi l'armée bolivienne. Evo Morales, lui qui s'était retranché dans sa ville natale, dans la région de Cochabamba, a finalement accepté hier l'asile politique du Mexique pour des raisons humanitaires et pour les risques qu'il encourt, déclarant que sa vie était menacée. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
Donald Trump, qui, vous l'avez entendu, a félicité l'armée bolivienne pour son rôle dans la chute de Morales, une démission dont il s'est réjoui, car le président américain dit y voir, je cite, un signal fort envoyé au gouvernement illégitime d'Amérique du Sud, citant le Nicaragua et le Venezuela. La riposte du président vénézuélien a été immédiate et comminatoire. Nous sommes prêts pour la bagarre, a lancé Nicolas Maduro à Donald Trump. Les États-Unis qui font part de leur grave préoccupation pour Hong Kong après la journée noire d'hier et nouvelle étape franchie vers le chaos, avec un manifestant pro-démocratie blessé par balle et un autre pro-Pékin brûlé vif. Des scènes d'une violence inouïe qui ont été filmées. Washington appelle fermement toutes les parties à faire preuve de calme et de retenue. La Turquie a mis ses menaces à exécution en expulsant ou en renvoyant hier, de leur pays d'origine des membres étrangers de l'État islamique. 11 Français arrêtés en Syrie seront notamment concernés dans les prochains jours. À Istanbul, Anne Andlewer.
Selon un porte-parole du ministère de l'Intérieur, la Turquie a commencé par expulser, il n'a pas précisé vers où, un citoyen américain identifié comme combattant terroriste étranger. La confusion règne cependant sur son sort, l'agence de presse turque DHA affirmant que cet Américain a été expulsé via un poste frontière avec la Grèce. Les douanes grecques lui auraient refusé l'entrée, rapporte encore l'agence, qui publie une vidéo de l'homme coincé dans le No Man's Land entre les deux pays. Les autorités turques n'ont fait aucun commentaire sur ces allégations. Un Danois a en revanche été renvoyé par avion vers Copenhague, tandis qu'un Allemand attendait de subir le même sort. 7 autres Allemands doivent par ailleurs être renvoyés jeudi. Tous étaient gardés jusqu'ici dans un des centres de renvoi où les autorités turques détiennent les étrangers interdits de séjour. Ankara annonce aussi le renvoi prochain d'étrangers arrêtés en Syrie. Cela concernerait pour l'instant 2 Irlandais, 2 Allemands et 11 Français. Ces cas sont plus problématiques car la plupart des États européens, dont la France, refusent de rapatrier leurs citoyens qui ont rejoint les rangs de Daesh en Syrie. Contactés par téléphone, des responsables turcs ont refusé de s'exprimer sur les renvois en cours, précisant simplement que ces procédures allaient se poursuivre, je cite, avec détermination. À Istanbul, Anne Andlewer pour Radio Vatican.
La Grèce déroule le tapis rouge pour le président chinois Xi Jinping est en visite dans le pays, une visite où il est surtout question d'investissement, de partenariat économique et pour cause. Athènes soutient le projet des nouvelles routes de la soie lancé par Pékin. Le président chinois et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ont fait savoir qu'ils comptaient renforcer encore plus le commerce bilatéral entre leurs deux pays. La Grèce, où se trouve depuis hier aussi le cardinal Sandri pour une visite d'une semaine. Organisée avec l'annonciature sur place ainsi que la conférence épiscopale grecque, le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales doit y rencontrer l'archevêque orthodoxe d'Athènes et de toute la Grèce, Hieronymos, ainsi que le ministre grec grec des affaires étrangères. Plusieurs rencontres sont également prévues avec les communautés latines locales. Retour dans notre dossier sur l'Espagne, qui a connu dimanche ses quatrièmes élections législatives en 4 ans. Des élections qui, au lieu de simplifier les choses, ont compliqué l'échiquier politique. Le parti de Pedro Sanchez est en tête, mais c'est une victoire à la Pyrrhus pour le Premier ministre espagnol, puisqu'il perd 3 sièges. Derrière lui, les conservateurs du Parti populaire et surtout l'extrême droite de Vox, qui fait une notable percée. Quant aux libéraux de Ciudadanos, ils se sont effondrés. Dans ce Parlement encore plus fragmenté, la formation d'un nouveau gouvernement va être un véritable casse-tête encore plus difficile à résoudre. Alors quelles sont maintenant les possibilités pour le Premier ministre? Élément de réponse avec Hubert Pérez, spécialiste de l'Espagne et professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier.
Il est assez probable que Pedro Sanchez va essayer de former soit un gouvernement socialiste minoritaire soutenu par les autres formations de gauche et par une partie des formations politiques nationalistes, en particulier le Parti nationaliste basque, en essayant de ne pas dépendre des partis indépendantistes catalanistes qui opèrent en permanence un chantage. Alors, c'est pas impossible, arithmétiquement, en réunissant toutes ses forces, toutes les petites formations nationalistes, régionalistes, à la condition que le Parti socialiste et Podemos, donc la gauche radicale, s'entendent. J'ajouterais que si les choses ne sont pas arithmétiquement plus faciles qu'elles ne l'étaient à la suite de l'élection du 28 avril, ça c'est certain, maintenant psychologiquement et politiquement les choses ont changé parce que on pouvait imaginer effectivement qu'on n'arrive pas à mettre sur pied un gouvernement après de premières élections et tenter le coup, ce qu'a fait Pedro Sanchez, de deuxièmes élections, maintenant de troisièmes élections, engendrerait une lassitude politique extrêmement importante, augmenterait l'abstention, et donc personne n'y a intérêt. Donc je pense que les acteurs politiques qui vont discuter de la formation d'un gouvernement vont être plus raisonnables et vont essayer d'écarter à tout prix l'idée qu'on pourrait ne pas se mettre d'accord et donc on irait de nouveau à des élections législatives dont manifestement un grand nombre d'électeurs espagnols ne veulent pas.
Le grand gagnant de ces législatives anticipées, c'est le parti d'extrême droite Vox. Il a doublé son nombre de sièges, il devient la troisième force au Parlement. Comment vous l'expliquez cette ascension, Hubert Pérez?
Les facteurs de très long terme, comme le fait que plus on s'éloigne de la période franquiste, plus, moins finalement il y a de tabous sur l'extrême droite. Ça, c'est un élément très important. Deuxièmement, la société espagnole a beaucoup changé. Et, par exemple, elle est en pointe sur la lutte contre les violences de genre, et ceci suscite des réactions culturelles extrêmement importantes. Il y a une partie importante de la population qui est accrochée à des valeurs anciennes. Il y a la question évidemment de l'immigration, et puis il y a, et c'est peut-être le facteur immédiat le plus direct de la montée de Vox, il y a la situation catalane.
Ce scrutin, il est également marqué par la montée des partis régionalistes, type les indépendantistes d'extrême gauche basque, qui obtiennent plus de sièges. C'est également le cas des sécessionnistes catalans Ensemble pour la Catalogne. Alors, comment analyser cette montée des partis régionalistes et qu'est-ce que ça engendre pour le futur de l'Espagne?
Il y a en Espagne, depuis quelques années, à la fois une polarisation politique de plus en plus forte entre la droite et la gauche, mais aussi une polarisation très forte sur le plan de la structure territoriale entre la montée des revendications nationalistes et dites périphériques et la résurgence du nationalisme espagnol, avec des différences importantes. La montée du parti nationaliste basque, par exemple, n'est pas une mauvaise chose pour Pedro Sanchez. Par contre, évidemment, plus les indépendantistes se renforcent, plus leur ligne radicale se voit confirmée, et moins les discussions avec le pouvoir central et la recherche d'une solution négociée au conflit catalan sera possible.
C'est cette fragmentation, cette surabondance de l'offre politique qui fait qu'il est si difficile pour Pedro Sanchez de former une majorité?
Il y a une fragmentation de l'offre politique. À partir du moment où il y a une fragmentation de l'offre politique, évidemment, les choix ouverts aux électeurs sont beaucoup plus importants. Le mode de scrutin espagnol transforme beaucoup moins facilement qu'en France une minorité de voix en majorité de sièges. Parce qu'on a un système de représentation proportionnelle qui est corrigé, qui est un peu amenuisé par le fait que l'on vote dans le cadre de petites circonscriptions qui sont les provinces. Évidemment, ça rend l'Espagne beaucoup moins facilement gouvernable que d'autres pays qui connaissent une fragmentation partisane semblable.
Voilà, interrogé par Marine Henriot, Hubert Pérez, spécialiste de l'Espagne, professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Un entretien à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain retour de l'actualité internationale, 13h, heure de Rome d'ici là. Très belle journée à toutes et à tous.